Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on est au mois de mars, mais je me suis rendu compte qu'au mois de février, j'étais passée à côté d'un truc fondamental. La Saint-Valentin, les relations amoureuses, les relations de couple, un sujet qui est tellement central quand on se parle d'alimentation émotionnelle. Parce qu'on va pas se mentir, ce cliché de la nana en larmes avec d'un côté son paquet de mouchoirs et de l'autre son pot de glace, sa tablette de chocolat ou sa bouteille de vin, bon bah on l'a tous en tête. Et évidemment, c'est assez logique, on se parle de faim émotionnelle ici. Bah oui, le cœur fait manger. Mais les chagrins du cœur surtout, et j'ai envie de dire même les chagrins du cœur, ils nous font pas manger, ils nous font bouffer, ils nous font tout dévorer, ils nous rendent insatiables. L'épisode d'aujourd'hui, il est fait pour toi que tu sois célibataire ou en couple. Hein, parce que finalement, aujourd'hui, peut-être que tu manges parce que t'es célib et que tu te sens seule. Peut-être que tu manges parce que tu désespères, tu ne trouves pas le prince charmant. Ou alors parce que celui que tu croyais être ton prince charmant ne répond plus à tes textos. Mais peut-être que tu manges aussi parce que celui que tu as un jour vu comme ton prince charmant et qui est devenu finalement ton partenaire, on va dire, stable dans la vie, peut-être que lui et toi, vous êtes en train de survivre à une relation de couple compliquée, conflictuelle. Peut-être que vous survivez aussi à votre vie de famille depuis que vous avez des enfants. Bref, que tu sois en couple ou pas, le fait est que quand ton cœur n'est pas nourri, bah t'as pris l'habitude de te réfugier dans la bouffe. Mais paradoxalement, l'amour, la relation amoureuse, c'est aussi la féminité, la séduction et l'attraction. Et finalement, comment séduire si on est en surpoids, en obésité ou simplement si on se sent trop grosse? Est-ce que trouver l'amour, c'est toujours possible? Est-ce qu'il va encore m'aimer si je grossis? Est-ce qu'il va me tromper avec une femme plus jeune et plus mince? Bref, c'est de tout ça, de toutes ces prises de tête et de toutes les prises alimentaires que ça peut déclencher que je veux te parler aujourd'hui. Alors à noter dans cet épisode, je parle de couple hétéro parce que c'est mon expérience et que c'est plus simple pour développer mon propos. Mais ça marche évidemment quelle que soit ton identité ou ton orientation sexuelle. Et d'ailleurs, dans mon programme Déjeuner en paix, j'ai déjà eu de nombreuses participantes lesbiennes. Donc bref, que tu te sentes mec ou nana, et que tu sois avec un mec ou une nana, franchement, c'est la même chose. Donc au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi la relation amoureuse répond à une faim profonde, et tu t'en rends pas forcément compte. Et je vais aussi te montrer comment cette quête de relation amoureuse crée chez toi des attentes et des espoirs qui sont souvent déçus et qui te font manger. On ira ensuite décortiquer l'histoire qui se met en place dans notre tête quand on est désespérément célib, que ce date ne nous rappelle pas ou qu'on se fight avec notre partenaire. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer comment t'en sortir. Comment ne plus te laisser bouffer par les relations amoureuses et comment ne plus bouffer à cause de ces relations amoureuses. Mais pour commencer, il faut déjà comprendre que ces relations amoureuses viennent répondre à une faim profonde. Une faim qui est finalement liée à la survie. Parce que oui, être aimé, être en couple d'une certaine façon, c'est avoir de meilleures chances de survivre. Alors évidemment, il y a un truc lié à la reproduction, hein, c'est aussi pour ça que la relation amoureuse, ça déclenche chez nous une sorte d'excitation, il y a quelque chose qui nous fait sentir vivante, vibrante, qui nous nourrit. Et tu sais ce que c'est quand t'es accro, quand t'es amoureuse, quand t'as des papillons dans le ventre, d'ailleurs t'en oublies presque de manger. Toute ton attention, tout ton focus est vraiment sur l'autre, la relation avec l'autre, l'excitation que génère cette relation, et puis évidemment l'intimité qui peut y être associée. Et puis finalement, être en couple, c'est aussi maximiser ses chances de survie parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était un peuple nomade, on vivait en groupe. Et d'ailleurs, si t'étais rejeté, si t'étais mise à l'écart, bah, tu risquais de mourir. Hein. Donc finalement, être en couple encore aujourd'hui, c'est un petit peu créer ta tribu à ton échelle. C'est avoir du soutien, être vu, aimé, reconnu, soutenu. Et d'ailleurs, une parole qu'on entend très souvent dans les mariages, C'est cette fameuse phrase « Je te promets de t'aimer et de te chérir, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Donc tu vois comment cette phrase qui est quand même iconique instille déjà l'idée que ton compagnon sera ton compagnon de fortune et d'infortune. Donc ça vient vraiment appuyer en nous le sentiment de sécurité associé avec le fait d'être en couple. Et puis du coup, être en couple, au fil du temps, c'est aussi devenu une convention sociale, comme si c'était une étape normale de la vie. Tu grandis, tu fais des études, tu décroches un boulot, tu rencontres un mec, vous achetez une maison, vous faites un enfant. C'est vraiment le modèle dans lequel on a grandi, que ce soit dans les contes de fées, les films Disney, vraiment avec le prince charmant ou même tous les feel-good movies, il y a toujours des belles histoires d'amour. Donc, non seulement c'est quelque chose qu'on veut par projection, mais aussi parce que ça vient répondre à un sentiment d'appartenance. D'une certaine façon, si je suis en couple, je viens cocher les cases des conventions sociales. Mais comme toutes les conventions sociales, tu le sais, à un moment, qui dit convention dit pression, pression sociale. Avec tout le monde qui te demande « Alors, toujours célib ?» Ou alors, t'es en couple et t'arrives seule à une soirée et les copains, ils te disent « Alors, Eric, il est pas là ?» Comme si toi, toute seule, tu suffisais pas. Et puis ensuite, quand Eric arrive à la soirée, tu peux pas échapper à la question suivante. « Bon alors, les enfants, c'est pour quand ?» Donc, d'une certaine façon, filer le parfait amour, c'est une façon d'avoir la paix par rapport à ton entourage et se débarrasser de certaines questions. Mais tu le sais, quelles que soient les étapes de ta vie et ta relation amoureuse, bon, de toute façon, ça ouvre la porte à d'autres questions qui peuvent de nouveau te mettre une pression sociale. Et puis, au-delà de la pression sociale, la relation amoureuse soulève parfois la question de la pression sur ton apparence. Et t'as peut-être entendu des phrases depuis ton plus jeune âge du type « Oh là là, t'es trop grosse, personne ne voudra jamais de toi, tu trouveras jamais de mari. » Ou alors « Les hommes n'aiment pas les femmes fortes. » Ou alors « Ah, tu es si jolie, si seulement tu perdais un peu de poids, tu plairais à tous les garçons. » Et du coup, tu t'es peut-être convaincu toi-même qu'il faut perdre du poids pour trouver l'amour. Hein? Pour attirer l'amour et le faire durer, il faut que tu sois le plus mince possible. Mais en réalité, cette façon de voir les relations amoureuses, ça crée des projections qui sont fausses et qui te font tout dévorer, parce que finalement, elles créent beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir déçus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de toi qui se sent pas complète seule, et une partie de toi qui se sent pas assez si elle est seule. Et t'as peut-être en tête une petite voix qui te dit « Ah, un partenaire, un bon partenaire, va venir combler mes manques. Mon partenaire va venir me divertir si je m'ennuie. Il va m'aider à m'apaiser quand je serai en colère. Il va me rassurer quand j'aurai peur. » Donc tu vois, ça crée une source d'attente quand tu l'as pas. Et du coup, si t'es célib, t'attends aussi peut-être désespérément cette relation pour enfin vivre, voyager, acheter un appart, sortir ou t'inscrire à ce cours de danse dont tu rêves. Et peut-être qu'il y a cette petite voix en toi qui te dit que pour trouver l'amour, il faut que tu perdes du poids. Je peux pas plaire si je suis grosse. Et ça, tu le sais, ce genre de petite voix toxique, paradoxalement, ça t'aide pas à maigrir. Au contraire, ça te fait bouffer. Et tu sais, si t'es célibataire aujourd'hui, sois pas jalouse de celles qui sont en couple, parce que quand on est une mangeuse émotionnelle, finalement, toutes les opportunités sont bonnes hein, pour se jeter sur la nourriture, et le chaos, on peut aussi le créer d'une autre façon. Et ce qui se passe souvent quand on est en couple, c'est qu'on se retrouve aussi à être éternellement déçu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est une mangeuse émotionnelle, on a souvent une vision transactionnelle de la relation. C'est-à-dire, nous on donne et on vit dans l'espoir de recevoir en retour. Le problème, c'est que nous, quand on donne vraiment beaucoup parce qu'on est très 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 généreuse, on fait passer les autres avant nous, hein, donc on donne tout. Et on est aussi très perfectionniste et très dans l'attente. On a envie d'être vu, aimé, valorisé. Donc, si l'autre ne nous donne pas à la hauteur de nos espérances, ben vraiment, ça nous met au fond du trou. On se sent tout de suite en insécurité, on se sent rejeté. Et il faut que tu aies en tête que ton corps aujourd'hui, il réagit au stress et à la peur du rejet, finalement de la même façon que le corps de la femme préhistorique. Hein, qu'on le veuille ou non, notre génétique, elle a pas vraiment changé au cours des derniers millions d'années. Et ton corps, il fait pas la différence entre Purée, Eric, il a pas sorti les poubelles, franchement, j'en ai marre, je me sens vraiment rejetée, humiliée, pas respectée, il m'aime pas. Et je risque de mourir de froid ou de faim. Donc les mécanismes qui se mettent en place derrière sont les mêmes. Au niveau physiologique, tes mécanismes de protection et de survie font en sorte de te faire manger pour te faire grossir ou te faire garder ce poids qui est susceptible d'assurer ta sécurité. Et puis, sur le plan émotionnel, le fait qu'Eric, il n'ait pas sorti les poubelles, ça vient réveiller aussi des vieilles blessures sur le fait de ne pas te sentir respecté, entendu, valorisé. Tu vois? Donc c'est vraiment comme un millefeuille avec différents facteurs physiologiques et émotionnels qui se superposent. Et la conséquence, c'est toujours la même. Tu te jettes sur la bouffe, hein, et cette peur d'être rejeté, cette peur aussi de grossir, c'est ça qui te fait manger encore plus. Donc tu vois, célibataire ou en couple, finalement, ce qui t'anime aujourd'hui, c'est des peurs. Souvent la peur donc d'attirer ou de garder ce conjoint, de continuer de plaire, de séduire. Cette notion de comparaison, de concurrence, c'est finalement le chemin direct vers le pot de glace ou la tablette de chocolat ou le paquet de gâteaux. Mais si on prend les choses avec un peu de recul et qu'on se trompe pas de cible et qu'on commence à regarder le problème là où il est, on se rend compte qu'en réalité, tout ça, c'est juste déclenché par une chose, une histoire que tu te racontes dans ta tête. Hein? Si par exemple t'es célib, l'histoire ça peut être « je ne suis pas digne d'être aimée ». Personne ne me comprend, personne ne me voit, personne ne m'aime, personne ne me témoigne d'intérêt. Je resterai toujours seule. Je suis trop grosse, c'est à cause de mon poids. Je ne suis pas une bonne personne, je n'ai pas de valeur. Et si t'es en couple, t'as peut-être aussi une histoire dans ta tête qui ressemble à « j'ai déjà de la chance qu'un homme s'intéresse à moi et soit avec moi. Je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est moi qui suis trop exigeante. » Ou alors, je suis coincée, je suis prisonnière, je n'ai pas le choix que de rester dans cette relation, peut-être pour des raisons financières, à cause de nos enfants, à cause de responsabilités ou d'engagements qu'on a en commun. Et tu vois, je t'invite vraiment à te poser la question de quelle histoire se raconte dans ta tête, hein, avant la prise alimentaire. Parce que si tu prends le temps d'accueillir ce que tu ressens, tu vas commencer à être capable de distinguer cette histoire. Et comment tu t'en sors de tout ça? Clairement, pas en mangeant le pot de glace, pas en dévorant la tablette de chocolat, pas en te flagellant non plus. Mais en te rendant compte de quatre choses. La première, c'est que tu es complète. Ouais, t'es complète telle que t'es. Et en vrai, t'as pas besoin d'un partenaire pour ça. Même si on te dit souvent que t'as trouvé ta moitié ou que tu dois chercher ta moitié, c'est faux. C'est un abus de langage. Tu es complète comme tu es. La deuxième chose, c'est que les humains sont attirés par d'autres humains de toute corpulence depuis toujours, que tu me crois ou pas. Alors, je suis pas là pour te convaincre que c'est aussi facile ou plus facile quand t'es grosse ou quand t'es en surpoids. Je t'en ai parlé dans l'épisode 45 précédent, je ne suis pas body positive. Et je ne vais pas mettre des œillères sur le fait que quand t'as parfois une corpulence, tu peux ne pas plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu ne vas pas plaire à tout le monde qu'il n'y aura pas des personnes auxquelles tu plairas. Et je peux te dire que parmi les participantes de mes programmes, j'ai un paquet de femmes en surpoids et en obésité qui filent le parfait amour, et j'ai aussi des femmes incroyablement minces qui restent complètement engluées sur le sujet à cause de leurs croyances sur le fait qu'elles sont toujours trop grosses pour trouver l'amour. La troisième chose dont je veux que t'aies conscience, c'est que si tu maigris juste dans le but d'attirer un homme, déjà tu risques d'attirer la mauvaise personne et tu le fais pour les mauvaises raisons. Tu vas te rajouter une pression supplémentaire. Qu'est-ce qui se passera le jour où ton poids va varier? Qu'est-ce qui se passe le jour où tu vas reprendre du poids? Est-ce que tu vas te mettre à paniquer parce que l'autre risque de te quitter? Ou est-ce que tu risques de te prendre des commentaires de ce partenaire en te disant « Oh là là, mais t'as grossi, qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais pas, je t'aime pas comme ça. » Est-ce que c'est vraiment ce type de relation que tu veux? Et puis enfin, quatrièmement, je pense que c'est vraiment le point le plus important, il faut que t'aies en tête que en amour, comme dans la vie, tu ne peux pas tout contrôler et ton poids n'y changera rien. Et on va pas se mentir, l'humain déteste l'imprédictabilité. Et toi, ce dont tu rêves, c'est juste de savoir, hein, même si par exemple aujourd'hui t'es célib, tu veux bien attendre. Ce que tu voudrais, c'est juste être assuré qu'on te dise combien de temps tu vas attendre. Et moi, pour être passée par un chagrin d'amour, Ça me dérangeait pas d'être dans le tourment, mais j'avais juste besoin qu'on me rassure, qu'on me dise combien de temps ça allait durer, parce que tout le monde te dit « Non, mais avec le temps, ça passe. » Ok, mais combien de temps ? 3 mois, 6 mois, 3 ans ? Finalement, peu importe la réponse, j'avais juste besoin d'une réponse. Mais on va pas se mentir, la réponse, personne n'est capable de te la donner. Mais parfois, en se mettant au régime, en se focussant juste sur notre poids et notre perte de poids, ben on se donne l'illusion de contrôle, ce qui peut venir nous rassurer quand on a l'impression que finalement, le reste, hein, la rencontre, la qualité de la rencontre, on ne le maîtrise pas. En revanche, il se peut aujourd'hui que tu aies aussi un désir contradictoire. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui veut attirer un partenaire, mais une autre partie de toi préfère garder les hommes à distance. Pourquoi ? Peut-être parce que tu as eu une mauvaise expérience du désir masculin, de l'intimité. Peut-être que tu as eu une entrée dans la vie sexuelle compliquée. Peut-être même que tu as été victime d'abus, d'attouchements, de harcèlement. Peut-être que tu as subi des commentaires sur ton physique, sur tes courbes. Et du coup, aujourd'hui, tu te protèges avec une couche de graisse. C'est une façon finalement de mettre les autres à distance, surtout les hommes. Et paradoxalement, si tu penses que tu trouveras quelqu'un quand tu maigriras, ton subconscient va tout faire pour te garder grosse. Parce que il a intégré que être mince, c'est attirer les regards, attirer le désir, et ça, ça te fait très très peur. Et puis, si tu es en couple, tes kilos en trop peuvent aussi être une barrière, une façon de mettre ton partenaire à distance. Et on le voit notamment pour les femmes en postpartum après un accouchement, les kilos en trop sont parfois une excuse à la reprise d'une sexualité qui n'est pas forcément souhaitée. Les kilos en trop, c'est parfois une façon de punir l'autre. Tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, donc je te mets à distance, je te punis, je me rends moins désirable pour toi, et encore une fois, ça peut être lié aussi à une façon de repousser l'autre et de repousser l'intimité. Donc tu vois, les sujets dont je te parle ici, je le sais, ils sont hautement sensibles. Mais c'est une invitation à commencer à regarder au bon endroit et à te poser les bonnes questions. Et si ce sujet résonne en toi et que tu veux aller plus loin, je ne peux que t'inviter à aller explorer mon atelier Kilo Protection, qui est un atelier de 2 heures à la demande, un atelier qui est disponible sur mon site internet johannaverdi.com, je te mettrai évidemment le lien dans les notes de cet épisode. Ça te permettra d'aller explorer plus en profondeur les mécanismes inconscients qui aujourd'hui te poussent à l'auto-sabotage et qui n'ont juste pas envie que tu perdes du poids. Donc, pour résumer cet épisode, ce que je voudrais vraiment que tu retiennes et que tu appliques, c'est 1. Quand tu te jettes sur la bouffe à cause d'un mec, c'est quoi l'histoire que tu te racontes vraiment dans ta tête ? Est-ce que c'est une histoire que t'as déjà entendue avant ? Alors quand je parle d'histoire, c'est « je suis trop comme ci, pas assez comme ça, je n'aurai jamais ci, je n'aurai jamais ça ». D'accord ? Quand est-ce que t'as déjà entendu cette histoire pour la première fois ? Dans quelles circonstances ? Qui a prononcé ces mots ? Hein ? Parce que souvent, ce que tu vis, c'est juste une réminiscence d'expériences douloureuses du passé. Donc c'est important que tu sois capable de te décoller et de faire la différence entre ces expériences douloureuses du passé, où finalement t'étais pas forcément maître à bord, t'avais pas forcément le contrôle sur tout, et tes expériences aujourd'hui, où t'es une adulte responsable, qui est en mesure, en capacité d'exprimer ses besoins et de se défendre. Et deuxièmement, est-ce qu'il y aurait pas une partie de toi qui en fait n'a pas vraiment envie de maigrir et de séduire ? Hein, est-ce qu'il y a pas une partie de toi qui ne se sent pas en sécurité dans sa féminité ? Parce que tant que tu as ces blocages et ces mécanismes d'auto-sabotage, ça sera très compliqué pour toi de faire rimer relation amoureuse épanouissante et relation saine avec la nourriture. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné envie de réfléchir à où tu en es dans tes relations amoureuses et te permettra de commencer à regarder au bon endroit, c'est-à-dire pas au niveau de tes compulsions alimentaires, mais vraiment au niveau de tout ce narratif intérieur. Si tu as aimé l'épisode, si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles. Donc sur Spotify, tu cliques sur les 3 petits points « Évaluer cette émission », tu viens mettre des étoiles, ou sur Apple Podcast. N'hésite pas à venir mettre un commentaire, c'est ce qui permet vraiment d'envoyer le message tout simplement aux plateformes d'écoute que cette émission mérite d'être écoutée et mérite d'être mise en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te parlerai d'obsession alimentaire. Parce que oui, la nourriture a ce pouvoir sur nous, cette capacité à nous obséder. Et tu sais ce que c'est ? Quand il reste une part de gâteau au frigo, que tu essayes de te concentrer, mais que tu ne peux pas penser à autre chose que cette putain de part de gâteau. Ce sera le sujet de l'épisode la semaine prochaine. On ira explorer est-ce que finir ce qui reste est vraiment la solution pour ne plus y penser. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.